L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui en Suisse, le procès de trois responsables du Conseil central islamique accusés de propagande en faveur d'Al-Qaïda. En Belgique, la grève des pilotes et des personnels navigants de la compagnie Brussels Airlines. Et en France, l'inquiétude des architectes français qui ne serait plus obligatoire pour construire les futurs logements sociaux. Au programme également au Canada, pas mal de questions après le projet d'achat d'entreprise de grosses infrastructures par des capitaux chinois. Et puis au Burundi, Ego ou Oya, pour ou contre la réforme de la Constitution. Le vote a eu lieu cette semaine. Voici l'actualité francophone. Bienvenue à tous. En Suisse, Pierre Anchoffa, votre ministre des Affaires étrangères, a provoqué une incompréhension certaine après ses propos sur le Proche-Orient.
Ignacio Cassis a en effet déclaré que l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, était aujourd'hui une partie du problème. Dans son interview, le ministre suisse des Affaires étrangères a même exprimé sa compréhension pour les États-Unis, eux qui ont décidé de couper les vivres à cette agence de l'ONU. Selon Ignacio Cassis, cet organisme, pourtant dirigé par un Suisse, alimenterait le conflit en faisant miroiter l'espoir du retour aux Palestiniens. Dans son département, des diplomates sont dépités. C'est notre travail sur le terrain qui est décrédibilisé, confie-t-il sous couvert d'anonymat.
Au Canada, Raphaël Bouvier-Auclair, l'ancien chef d'un parti indépendantiste, a annoncé qu'il devenait membre d'un parti fédéraliste.
Michel Gauthier a été chef du Bloc québécois, un parti en faveur de l'indépendance du Québec qui est représenté au Parlement canadien. Celui qui a cessé d'être député il y a une dizaine d'années a récemment annoncé qu'il devenait membre du Parti conservateur, une formation fédéraliste qui est en ce moment l'opposition officielle au Canada. Michel Gauthier explique que puisqu'un référendum sur l'indépendance du Québec n'est pas envisagé en ce moment, c'est le Parti conservateur qui permettra de mieux représenter les intérêts des Québécois au Parlement. Cette formation politique est d'ailleurs en pleine campagne de séduction pour faire des gains dans la province lors de la prochaine élection fédérale en 2019.
En France, les états d'âme du ministre de l'écologie, il ne sait pas encore s'il a envie vraiment de rester au gouvernement. Nicolas Hulot a émis l'hypothèse d'un futur départ du gouvernement cet été. On aura un moment de vérité avec le président et le premier ministre, a prévenu Nicolas Hulot. Ses proches refusent de parler d'ultimatum ou de chantage, mais il semble bien que l'ancien animateur soit bel et bien passé et surtout lassé de sa difficulté à pouvoir imposer ses projets dans un ministère où l'administration toute puissante réduit Nicolas Hulot à un simple ministre dont le symbole écologique est plus fort que ses réelles décisions. Alors l'été portera conseil donc, et comme l'a écrit un journal français cette semaine, les vacances de Monsieur Hulot seront studieuses. En Belgique, la bande dessinée était en deuil cette semaine. Le célèbre dessinateur William Vance est mort lundi soir. Il s'est éteint dans sa résidence de Santander en Espagne, Aline Jacobs.
Oui, de son vrai prénom, William Van Kinsem est mort à l'âge de 82 ans. William Vance est né à Anderlecht, près de Bruxelles, et ses coups de crayon ont donné vie notamment au personnage 13, un héros amnésique dont il était un peu le papa avec le scénariste Jean Van Am. Et ce, durant près d'un quart de siècle, des albums qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. William Vance a fait ses premiers pas professionnels dans le journal de Tintin. Et puis son souci du détail et ses visages croqués lui donnent un style inimitable et il devient le maître du réalisme. On retiendra de lui également les personnages de Blueberry et de Bob Moran. Alors depuis 8 ans, malheureusement, William Vance avait rangé ses crayons et ses feutres à cause de la maladie de Parkinson.
Le portrait de la semaine sur RFI, Edouard du Penouat, c'est le footballeur Karl Toko Ekamb, lauréat du prix Marc-Vivien Fauré 2018.
C'est lui, le meilleur joueur africain du championnat de football de Ligue 1. Lui, le Camerounais de 25 ans, qui évolue comme attaquant du SCO d'Angers, buteur prolifique, classé 8e du championnat avec 17 réalisations au compteur. Les journalistes spécialisés qui composent le jury l'ont choisi devant Wabi Kazri du Stade Rennais et Bertrand Traoré de l'Olympique Lyonnais. Karl Toko Ekambi est en train de terminer la meilleure saison footballistique de sa carrière. Il doit quitter le SCO à la fin du championnat. Quand on lui demande ce qu'on peut lui souhaiter, sa première réponse, c'est une bonne santé et que ma progression continue.
En Suisse, le ministère public a donc requis 2 ans de prison avec sursis contre 3 dirigeants du Conseil central islamique suisse. Pierre Anchoffa.
Oui, un procès particulier qui s'est tenu devant le tribunal pénal fédéral. Les trois hommes sont accusés d'avoir diffusé au moyen de vidéos de la propagande pour l'organisation islamiste Al-Qaïda. Particulier parce que les accusés ont fait valoir leur droit au silence. Ils ont refusé de répondre aux questions de la procureure fédérale, tant sur leur situation personnelle que sur les faits qui leur sont reprochés.
Mais droit au silence, pourquoi ce mutisme ?
Eh bien, les prévenus se disent victimes d'un procès politique empreint d'islamophobie. Une critique qu'ils ont volontiers développée en conférence de presse deux jours avant l'ouverture du procès, avant de se murer dans le silence. Il n'y a donc qu'un petit pas à franchir pour y voir une opération de communication réussie de Nicolas Blanchot, un Suisse converti à l'islam, qui a souvent défrayé la chronique avec son Conseil central islamique, une organisation régulièrement dénoncée comme intégriste.
Et ce procès a-t-il permis, malgré tout, d'étayer l'accusation de propagande islamiste ?
Mais la défense a en tout cas plaidé l'acquittement en argumentant sur la liberté d'expression et sur un travail journalistique, certes de piètre qualité, mais journalistique tout de même. Ce que la procureure a réfuté, indiqué quelques thèmes et laissé parler son interlocuteur pendant plus de 30 minutes, c'est de la propagande, pas du journalisme. L'accusation s'est également efforcée de prouver les liens de cet interlocuteur rencontré en Syrie avec l'organisation terroriste Al-Qaïda, interdite en Suisse. Le jugement est attendu pour le 15 juin.
Le gouvernement du Canada doit approuver l'achat par des intérêts chinois d'une entreprise canadienne spécialisée dans les infrastructures. Raphaël Bouvier-Auclair, cette acquisition soulève bien des questions.
Oui, parce que Aecon, l'entreprise canadienne en question, construit notamment des ponts, des routes, des aéroports. Ce sont donc des infrastructures critiques qui sont en jeu. Une entreprise chinoise a déjà présenté une offre d'achat évaluée à 1,5 milliard de dollars canadiens. Or, le gouvernement fédéral doit encore donner son feu vert, comme pour toute transaction du genre. L'ancien haut placé canadien en matière de sécurité ont fait part de leurs inquiétudes. L'évaluation du gouvernement comprend donc une enquête pour juger si cette transaction comporte un risque pour la sécurité nationale. Mais un refus pourrait aussi avoir des conséquences, notamment sur les relations entre Ottawa et Pékin. L'enjeu est donc très sensible, selon l'ancien ambassadeur canadien en Chine, Guy Saint-Jacques.
Si on refuse cet investissement-là, ça soulève la question, qu'est-ce que on va permettre? Et à ce moment-là, je pense que la Chine va dire, écoutez, vous n'êtes pas un partenaire sérieux.
Et Raphaël Bouvier-Auclair, le gouvernement canadien est toujours en train d'évaluer la situation.
Le gouvernement de Justin Trudeau doit rendre une décision dans les prochaines semaines. Le ministre de l'Industrie assure que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une entreprise chinoise qu'une enquête sur la sécurité a été lancée et que la mesure s'applique pour tous les pays. Son collègue responsable du commerce international, François-Philippe Champagne, ne croit pas que le processus d'évaluation refroidisse les pays qui veulent investir au Canada.
L'ensemble des pays dans le monde comprennent ça. Les investisseurs potentiels le comprennent bien et ils s'attendent justement à ce que le Canada est un pays ouvert, mais d'abord dans le respect de la sécurité nationale toujours.
La décision du gouvernement fédéral sera suivie de près, surtout dans le contexte où Ottawa et Pékin veulent développer leurs relations économiques.
Des avions cloués au sol, des centaines de vols annulés et des dizaines de milliers de passagers contraints de trouver une solution. Les pilotes de la compagnie Brussels Airlines étaient en grève cette semaine. Aline Jacobs, ils réclament de meilleures conditions de travail.
Oui, un meilleur salaire et un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce sont deux des revendications des pilotes de Brussels Airlines, la compagnie aérienne belge, qui est désormais une filiale de Lufthansa. Des pilotes qui se sont croisés les bras deux jours, c'était lundi et mercredi. Et c'est la deuxième grève de l'histoire de la compagnie. Alors les négociations entre direction et syndicats sont au point mort après plus de 15 heures de discussion. Des syndicats qui préparent déjà de nouvelles actions, comme l'explique Didier Leb, membre du CNE, le syndicat chrétien.
Les négociations ont échoué. Donc, nous annonçons donc deux jours de grève pour le mois de juin et nous communiquerons les dates d'ici la fin du mois, à moins qu'il n'y ait un geste fort de la part de la direction.
Des actions soutenues par le syndicat socialiste. Par contre, le syndicat libéral, lui, veut d'abord calmer les émotions. Du côté de la direction, cette possibilité de nouvelle journée de grève ne passe pas. Étienne Davignon, président du conseil d'administration de la compagnie, refuse de travailler sous la menace.
Nous ne mettons pas les pilotes sous pression et nous n'acceptons pas qu'on soit mis sous pression. Nous avons aujourd'hui convenu de chercher une formule. Nous ne sommes pas en train de nous demander ce qu'on fait si on ne trouve pas la formule. Si on veut travailler et de travailler sur nous, sur la menace, ça ne pèsera pas.
Étienne Davignon qui estime que le dialogue n'est pas encore rompu. Les deux jours de grève de cette semaine devraient coûter près de 10 millions d'euros à Brussels Airlines.
Édouard Dupenoit pour RFI. Les habitants du Burundi votaient jeudi pour ou contre la réforme de la Constitution.
Un choix en deux mots, ego pour oui, oya pour non, voilà le choix proposé aux Burundais pour cette réforme constitutionnelle. L'enjeu est de taille, si le oui l'emporte, le président Pierre Nkurunziza aura le droit d'être candidat en 2020 pour deux septennats, ça l'emmènerait donc au pouvoir jusqu'en 2034. Et le oui devrait l'emporter, vu la pression que les autorités ont fait peser sur la population. Les organisations de défense des droits de l'homme évoquent des arrestations, des violences et des menaces physiques contre tous ceux qui tentaient de faire campagne pour le non. Nous avons pu joindre le président du groupe parlementaire de la Coalition des Indépendants. Il a constaté des irrégularités le jour du vote.
J'assiste à une catastrophe électorale et on observe très particulièrement chasse à l'homme à nos militants. Et puis, il y a des présidents de bureau de vote qui accompagnent les votants dans les isoloirs, qui leur donnent des injonctions de voter pour le oui. À l'Ekofo Minago, le président du bureau de vote qui s'appelle Jean-Marie s'est bagarré avec un citoyen qui voulait voter pour le non.
L'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis dénoncent eux aussi ce référendum. Ils pourraient bien signer la mort des accords de paix qui avaient mis fin à la guerre civile au Burundi en l'an 2000.
En France, la mobilisation des architectes. Ils sont opposés à l'un des articles du projet de loi sur le logement qui sera étudié dans les prochains jours par les députés. Le texte prévoit en effet de supprimer le concours d'architectes aujourd'hui obligatoire quand il s'agit de construire des logements sociaux. Supprimer le concours d'architectes, pourquoi ? Eh bien pour alléger les procédures, pour accélérer les chantiers et donc construire plus vite les logements sociaux qui font cruellement défaut en France. Les syndicats d'architectes ont défilé dans les rues cette semaine. Ils dénoncent une hérésie au regard des erreurs du passé sur les grands ensembles qui ont été construits trop vite. Les architectes se veulent donc indispensables pour construire les logements sociaux de demain. C'est ce que dit par exemple Christian de Porzamparc, signataire de l'appel des architectes.
Il y a eu beaucoup de constructions dans l'urgence qui ont été faites dans les années 50, 60, 70. Je me souviens qu'à l'époque, on disait souvent d'ailleurs que c'était pour une période de 30 ans. Bien sûr qu'on n'a pas détruit. Et on sait que ces quartiers, pour beaucoup, ont été faits trop vite. Le concours, ça a cette vertu. Ça veut dire être des architectes, ça veut dire aussi des urbanistes, ça veut dire une intelligence du quartier qui est au premier chef importante. C'est vital. Parce qu'un maître d'ouvrage, il va avoir une difficulté financière pour construire. Donc il sera tenté de trouver quelques architectes qui ont trouvé le truc pour être pas cher, pas forcément avec une mauvaise qualité, mais avec une banalité immense dans le travail, dans l'aspect du bâtiment. Ça rejaillit sur les villes que nous faisons pour demain.
Voilà, l'inquiétude des architectes français face au projet de loi qui veut supprimer les concours d'architectes pour le logement social. Le texte sera étudié au Parlement français à partir du 29 mai. Voilà pour cette actualité francophone de la semaine. Merci à tous les contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, même endroit, même heure.